Philosophie première par le Père Philippe à Saint-Joder, le 14 mars 90.
conscience que j'ai de mon moi qui me permet d'avoir conscience de toutes mes activités. On cherche ce qui est premier dans l'ordre de la conscience du moi et ce qui permet, par le fait même d'expliquer tout le reste. Et c'est pour ça que je faisais un parallélisme avec Kant, où les formes a priori expliquent toute ma connaissance. Quelque chose d'analogue. C'est pas du tout Kant, mais c'est quelque chose d'analogue. Autrement dit, on cherche l'au-delà de la psychologie, d'une conscience immédiate qui est au niveau psychologique. Et on cherche à découvrir la raison qui permet d'avoir cette conscience. Donc, il y a bien une recherche de quelque chose de premier, quelque chose de fondamental, mais dans l'ordre de fait de l'intentionnalité. C'est chez Descartes, puisqu'il y a une parenté entre Husserl et Descartes. Qu'est-ce que la conscience chez les modernes? C'est évident que la conscience chez les modernes n'est pas tout à fait la même chose que la conscience des Grecs. Pour la philosophie aristotélicienne, la conscience demeure une propriété de la connaissance intellectuelle. Sens intellectuel implique la conscience. J'ai conscience de penser. J'ai conscience de vous parler. Et j'espère que vous avez conscience que je vous parle. Alors, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a... C'est une propriété de la connaissance intellectuelle. Chez les modernes, je crois qu'on peut dire que la conscience constitue la pensée. C'est plus une propriété. la salle, c'est tout le domaine. Vous voyez, de la philosophie moderne. C'est qu'au fond, il n'y a plus de recherche de ce qu'est la réalité profondément. Mais on demeure toujours dans l'ordre de la propriété, qui, elle, devient constitutive de la réalité. Je crois. L'intentionnalité constitue la réalité. La conscience constitue. vie intellectuelle. La conscience, chez Freud, s'oppose à l'inconscient. Quand vous étudiez un philosophe, essayez toujours de saisir la division fondamentale de ce philosophe. Quelle est la division fondamentale de la philosophie aristotélicienne? La distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. C'est ça comme ça, si vous voulez. Et quand vous étudiez un philosophe, vous voyez toujours ça. C'est toujours très intéressant, ce point de vue-là. C'est la seule manière de le saisir vraiment. Quelle est la division fondamentale pour la philosophie aristotélicienne? Être en puissance. Fondamentale chez Freud. Inconscient et conscient. C'est la division fondamentale. De ma connaissance habituelle. Alors c'est vrai que cette intentionnalité est consciente et que le moi pur, d'une certaine manière, est au-delà de la conscience. Mais il est la raison sine qua non de la conscience. Comme l'inconscient freudien est la raison sine qua non du conscient. Donc il y a quelque chose d'analogue. Différent. Il y a quelque chose d'analogue. Parce que ce sont des méthodes qui cherchent le fondement. En réalité, vous voyez, nous sommes ici en face du fondement. Alors, ce serait intéressant de comparer l'inconscient et le conscient. Vous voyez, si je mets ici le fondement, la potentialité, le possible devient premier. Quand on cherche la finalité, c'est l'inverse. Et c'est là où je vois l'inversion complète de la philosophie. Je m'explique pour que vous voyez un petit peu mieux. Là, on cherche le fondement. Et on considère le fondement comme la chose radicale. Or, le fondement saisi dans une méthode fémologique ou freudienne est toujours quelque chose de radical qui n'est pas un acte. L'inconscient, c'est de temps en temps l'inconscient passe à l'acte. Et pas toujours, heureusement. C'est le fondement. Alors, c'est presque. Alors, dire que le fondement est une hypothèse, il n'est vrai pas ça. Faut pas dire que c'est une hypothèse, puisque c'est saisi comme la condition sine qua non. Alors, d'une certaine manière, c'est vrai. C'est l'hypothèse qui permet d'expliquer tout le reste. Mais il y a un mélange des deux. C'est pour ça, c'est à la fois ce qu'il y a de potentiel, donc le possible, et la raison sine qua non. Puisque sans ce fondement, je n'explique pas le conscient. Dans une recherche de loi qu'une analyse de causalité. Si B existe, A existe. Donc, condition sine qua non pour que B existe. Beaucoup plus que de recherche de causalité. Alors c'est pour ça qu'on a une espèce d'inversion très curieuse. Alors, faut être attentif, il ne faut pas tout mêler. Il faut essayer de comprendre ce que représente cette recherche du fondement, qui est une raison sine qua non pour expliquer tout ce qui apparaît. C'est la personne qui rend raison de la conscience. Mais voyez, alors, la personne est-elle l'inconscient? Pour Freud, qu'est-ce qui fait la personne humaine? Le complexe d'Œdipe, l'inconscient. Elle n'osera pas le dire. En réalité, c'est ça. Alors, on dira plus que c'est ce qui constitue l'individu. Parce que c'est inconscient. Et c'est difficile de dire que la personne, c'est l'inconscient. Alors, on ne sera pas sur l'individu. Le petit noyau fondamental qui est en vous. Hein. Le petit noyau fondamental. Si je suis freudien, si je vous regarde à la manière de Freud, je peux. C'est hier, le regard du démon, le regard de Dieu. Si je me mets maintenant dans l'orientation freudienne, qu'est-ce que je vois en vous? Complexe de type. C'est pas très original, pas besoin de faire de retraite. Complexe d'Œdipe. Et ceci, avant tout, le complexe d'Œdipe est là. Donc, c'est pas votre personne, mais c'est le noyau fondamental qui commande des quantités de réactions. Pour Freud. Alors, c'est une hypothèse de recherche, d'une certaine manière. Mais pour Freud, c'est pas une hypothèse de recherche. C'est la réalité. Parce que je pourrais dire que c'est une hypothèse de recherche. Comme pour Husserl, je pourrais dire que c'est une hypothèse de recherche. Pour eux, ce n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un ontologisme fondamental dans toutes ces pensées. Qui fait que si je recherche le premier dans l'ordre de l'intentionnalité, c'est le premier. Qu'est-ce que le vécu? N'est-ce que psychologique? c'est pas uniquement psychologique. Il y a un vécu psychologique et il y a le vécu féminologique. C'est pas le même. Parce que le vécu psychologique est beaucoup plus grossier. Un vécu psychologique. Hein. Maintenant, vous avez un vécu psychologique. Votre vécu psychologique d'assister à un cours de métaphysique. Il y a des tas de choses que je ne comprends pas. Voilà, je charrie avec moi des tas de choses que je ne comprends pas. C'est le vécu du cours de métaphysique. C'est très intéressant, mais il y a des tas de choses que je ne comprends pas. C'est comme le vécu d'un torrent qui charrie des tas de choses. Vécu féminologique en vous, c'est quoi? C'est justement ce que vous connaissez. Vous voyez, il est beaucoup plus formalisé. Et il est formalisé d'une façon très nette, puisqu'il y a une mise entre parenthèses de l'exister. Au niveau psychologique, vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses exister. C'est impossible. Tandis que le vécu féminologique, pour Husserl, c'est lui qui a précisé avec le plus de netteté ce qu'est la psychologie, ce qu'est la féminologie. On met entre parenthèses exister, le chemin d'existence, l'exister. Si vous mettez entre parenthèses l'exister, vous pouvez alors formaliser l'intentionnel. Et c'est cette formalisation de l'intentionnel qui est le niveau de la féminologie. Donc je suis au-delà de la psychologie, bien au-delà. Ce qu'il n'y a plus, il y a la mise entre parenthèses de l'exister. C'est pas comme un Turès à bien voir, exactement. J'ai eu à Fribourg un père dominicain qui a fait sa thèse sur cette mise entre parenthèses chez Husserl. Il connaissait parfaitement Husserl. Infiniment mieux que moi. Et ça m'intéressait beaucoup de voir ce que lui saisissait dans cette mise entre parenthèses. Très curieux, lui, bokeh. Et on voit très bien, c'est une manière de formaliser l'abstraction. Je crois. L'abstraction, pour nous, elle est vécue dans ce fait. On laisse tomber certaines choses, on ne s'en occupe pas. Tandis que dans la féminologie, on continue de s'en occuper. Alors ça, c'est l'abstraction formelle. Je sais exactement ce que je retiens. Nous allons continuer, parce que je ne voudrais pas trop tarder dans cette recherche. Alors, nouvelle perspective après Husserl. La personne, unité immédiatement co-vécue, du vivre par expérience vécue. Hein? Alors là, vous êtes en face de quelque chose de tout à fait particulier. Ça nous intéresse spécialement à cause du Saint-Père. que c'est la suppression, hein. Je pose la question. On n'a jamais le droit de penser la personne comme une chose ou comme une substance qui posséderait des pouvoirs et des puissances quelconques, parmi lesquelles se trouverait entre autres un pouvoir ou une puissance rationnelle.
L'unité de ma vie.
le vécu actuel. Puisque tout à l'heure, j'aurai un vécu tout à fait différent au petit déjeuner. Ce sera un autre vécu. Ce ne sera pas le vécu actuel. Ce sera l'intentionnalité qui descendra dans le bol de café. Mais vous n'allez pas boire l'intentionnalité. Alors, le vécu est successif. Qu'est-ce qui fait l'unité, la personne? Et la personne est présente dans tous les vécus. Donc, elle n'est pas en dehors de ce vécu immédiat. Elle est présente. Et ça, c'est aussi très fort, Husserl. C'est dit d'une autre façon, mais c'est la même conception. C'est l'unité. C'est la durée de ce vécu. Mais ce n'est pas ce vécu. Et d'autre part, il ne faut pas le séparer de ce vécu. Là, il faut le rattraper tout de suite. Je vous relis ce petit passage. Non, une fois qu'on a compris, c'est très simple. C'est pas du tout compliqué. C'est tout simplement... Je crois... La méfiance d'une analyse abstraite pour rester dans l'exercice. Mais un exercice non pas psychologique, mais un exercice féminologique d'un vécu autre qui sera une formalisation de ce vécu psychologique. Mais formalisation au niveau de l'unité, de la continuité. On n'a jamais le droit de penser la personne comme une chose. Ça, c'est net. Il dira également, la personne n'est pas une chose. Elle ne porte pas non plus en soi cette essence de la chosalité qui est essentielle à toutes les choses de valeur. À titre d'unité concrète de tous ces seuls actes possibles, elle s'oppose à tout le domaine de ce qui peut être objet et à plus forte raison à tout le domaine des choses qui n'est qu'une partie du domaine des objets. Donc la personne n'est pas un objet. La personne n'est pas une chose. La personne ne peut pas être objet de pensée. Elle n'existe que dans l'accomplissement de ses actes. Elle existe dans l'accomplissement de ses actes. Elle n'est pas en dehors de ses actes. Elle n'est pas séparée de ses actes. Elle n'est pas le principe de ses actes. Le principe est saisi comme une chose. Parce qu'il est saisi à titre d'un fondement en soi. Il est certain que la personne existe et aussi qu'elle se vit par expérience vécue. Donc, il est certain que la personne existe et aussi qu'elle ne se vit par expérience vécue qu'à titre d'essence effectuant des actes. Qu'en aucun sens, elle n'est située derrière ses actes ou au-dessus comme quelque chose qui subsisterait à la manière d'un point fixe au-dessus de l'effectuation et du déroulement de ses actes. Remarquons que la substance, pour Max Scheler, relève du domaine spatio-temporel, qui n'est évidemment pas celui où il faut situer le rapport de la personne. Et c'est parce qu'on a méconnu cette évidence qu'on a toujours abouti sur cette voie à substantialiser la personne. Donc, on peut dire opposition nette avec le fait de la substance. Vous entrez là dans le domaine tout à fait nouveau. C'est déjà vrai chez Husserl, mais c'est dit beaucoup plus explicitement. Ne pensez plus la personne comme une chose. sensible avec l'acte et qui fait l'unité de toute la diversité des actes, mais présente dans l'acte, mais non pas substance de l'acte. Oui, alors, on commence un tout petit peu à voir si la métaphysique implique le point de vue de la substance et de l'acte. Toute la scolastique, un peu décadente, va ramener toute la métaphysique à la recherche de la substance. Et l'acte est considéré comme quelque chose de secondaire. Regardez tout simplement le petit livre du père Gardeil sur la métaphysique thomiste. Tout est sur la substance. Division de l'essence et de l'existence. C'est ce qu'on... Donc, on peut dire qu'il y a cette tentation permanente dans la scolastique décadente de réduire l'acte à la substance. Et la métaphysique devient une ousiologie, comme on dit élégamment. Une ousiologie. C'est-à-dire le logos de la substance. Tandis que chez Marc Scheller, on va réagir violemment. Ça, c'est la chosification.